Bonjour Annick Baléry.
Bonjour Philippe Subercas.
Chaque semaine, on se retrouve pour ces causeries vertes. La semaine dernière, on parlait de ce fruit, le coin. Là, on va parler de quelque chose qui ne fait pas forcément l'unanimité. Des fois, on le craint par rapport à la laine qu'on pourrait avoir. Je pense que les gens auront compris de quoi on va parler. L'ail. L'ail qui est... en Espagne, on le met un peu à toutes les sauces, et il a plein de vertus, mais effectivement, il laisse dans la bouche un goût qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et une haleine qui est vraie, on a du mal après à, à se débarrasser.
Alors, le secret, à l'époque, quand on n'avait pas les pastilles, les pchit-pchit et autres, on croquait un grain de café, ou on croquait des graines de fenouil, et on récupérait une haleine normale.
Donc, cette semaine, vous nous parlez de l'ail.
Exactement. Alors, ça tombe bien, ça lutte contre la toux. C'est antibactérien. Et à l'entrée de l'hiver, c'est vrai que ça peut être intéressant de connaître toutes ses vertus. Alors, il est également favorable à une bonne circulation sanguine. Voilà, on dit qu'il lutte contre les dépôts graisseux dans les artères et qu'il facilite l'élasticité des vaisseaux. Sanguin.
Oui,
il serait vasodilatateur.
Oui, donc. On dit aussi que c'était bon pour la tension, effectivement.
Oui, voilà. Alors, c'est sans doute dû à ce qu'il contient. Il contient du soufre, il contient également de la silice. C'est quelque chose qui est très bien aussi. Alors, bien sûr, on évitera les trop grandes quantités. Il y a des gens qui sont fragiles de l'estomac qui vont avoir un peu de mal.
Oui, c'est vrai que voilà. Des fois, si on a l'estomac un peu fragile, l'ail pas cuit, enfin cru, oui. Dans une salade, par exemple, waouh, on le sent passer.
Hein. Voilà. Et puis sinon, il peut aussi brûler la peau. Alors, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour brûler les verrues. Mais quand on l'utilise pour brûler les verrues, on fait un petit pincement, on découpe un petit lamelle d'ail, vraiment de la taille de la verrue, pas plus.
Oui.
Et on l'applique, mais il faut faire attention parce que si on prend quelque chose de trop grand, on va brûler la zone périphérique. Alors moi, je vous livre ça, mais je l'ai personnellement expérimenté. Ça marche très, très bien. Alors, bon, à vous de voir aussi, de prendre des précautions. J'ai eu un orgelé il y a quelques temps. Et donc j'ai cherché, j'ai des livres comme ça de recettes de grand-mère. Et on préconisait de passer un morceau d'ail sur la partie. Alors bien sûr, attention à l'œil. Hein. Et franchement, c'est très très efficace.
D'accord.
Alors je faisais des espèces de petits bâtonnets de section carrée que je passais tout doucement sur la zone qui était atteinte. Je laissais sécher, je ne mettais pas les doigts, bien entendu, et ça disparaît assez vite. C'est très étonnant.
D'accord.
Voilà.
L'ail aussi est un bon vermifuge.
Oui, c'est vrai, c'est connu pour ça, effectivement. La lutte contre la toux, c'est quelque chose que moi, j'ai connu de façon empirique. Chez moi, quand on était malade, on faisait un truc qu'on appelait l'ail gobulido. L'ail bouilli.
D'accord.
Donc ça, c'était en plus un truc de famille modeste. Hein. Donc on épluchait plusieurs gousses d'ail. On les mettait dans une casserole avec de l'eau. Et on rajoutait une feuille de laurier, une grande feuille sèche de laurier. On laissait bouillir. On rajoutait un petit peu d'huile d'olive. Et on versait le tout sur des tranches de pain. Vous savez, le pain qu'on ne jetait pas à l'époque, hein, qu'on gardait, voilà, le pain sec. C'est de là que venait le vocable tremper la soupe. En fait, on versait un bouillon sur des tranches de pain qui étaient devenues trop dures pour être mangées comme ça. Et franchement, quand on était malade, c'était le remède souverain. Alors, il existe une version qui est plus chic, dans laquelle, en fin de cuisson, on introduit un œuf battu de façon à avoir un petit peu d'épaisseur pour ce bouillon. Mais c'était vraiment très, très efficace.
Oui. Donc, pour la toux, hein. Pour la toux.
Voilà, quand on avait des bronchites, des refroidissements, qu'on se sentait un petit peu barbouillé. Et ça s'explique, vu qu'il y a une fonction antibactérienne de l'ail. Et franchement, c'était vraiment très bon. En plus, si on est un peu barbouillé, ce n'est pas quelque chose non plus qui va vous surcharger.
Alors, on dit toujours qu'il faut enlever. Dans l'ail, il faut le couper en deux et enlever le...
Il faut enlever le germe.
Parce que le germe est difficilement...
Voilà, se digérerait difficilement. Oui. C'est vrai que pour faire ça, souvent, on coupait les gousses en deux et qu'on a ôté le germe. Alors pour les gens qui ont du mal avec l'ail cru, ça peut être une bonne alternative. Ce qui est sympa aussi, c'est de le cuire dans du lait, dans un peu de lait. Donc les gousses épluchées, coupées en petits morceaux. Et ça peut par exemple servir à cuisiner un poisson, c'est vraiment très très, 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 très bon. Ce que l'on ne sait pas, mais que j'ai découvert et qui explique beaucoup...
Et qu'on va savoir,
c'est que l'ail doit être conservé au chaud.
Et pas au frigo.
Et non. C'est pour ça que quand vous achetez de l'ail, eh ben dans la semaine qui suit, il commence à s'agiter et à germer.
Parce qu'il a été au frigo ?
Parce qu'il a été au frigo. En fait, le froid va lever la dormance. Alors, je vous fais l'ail.
Voilà. Alors, vous ne le voyez pas, voilà. C'est dommage. Il faudra un jour qu'on filme la chronique.
Alors, je vous fais l'ail. L'ail, donc, il est endormi. Là, c'est... Et puis, tout d'un coup, il y a du froid. Il se dit, oh, il fait froid, c'est l'hiver. Je le fais bien. Hein.
Oui, voilà. Franchement, j'ai l'impression d'être là.
Voilà. Et puis ensuite, la chaleur arrive. Il dit, oh, il fait chaud, c'est le printemps, je vais sortir une petite pousse. Et c'est là qu'il commence à germer. Mmh. Et je pense qu'il y a un souci. Enfin, il faudra faire un appel aux commerçants ou aux magasins qui pensent bien faire en les gardant dans les frigos, parce que c'est pas du tout une bonne idée. En fait, là, il se conserve...
Après, je pense
aux environs de 18 degrés.
Voilà. Je pense qu'après, une fois qu'ils l'ont vendu, ils s'en fichent un peu de savoir s'ils germent.
Mais comment vous avez mauvais esprit,
dans la cuisine de la personne qui l'a acheté. Une recette avec l'ail, à part votre soupe. Moi, toujours, le pain aillé de ma mère dans le poulet. C'est quelque chose, ça vous, presque le poulet on s'en fiche pourvu qu'on mange l'ail et on se dispute le pain aillé qui a été mis dans le poulet pour pendant la cuisson avec bien aillé avec un peu de sel et de poivre.
Ah oui, et ce qui est pas mal aussi c'est de détacher la graisse que l'on peut trouver et de la autour de dans le poulet. Et de la rajouter aussi, c'est pas mal non plus.
La tranche de pain où on a passé la tomate, de l'huile d'olive où on a fait macérer des petits grains d'ail et avec une tranche de jambon du pays.
Alors ça c'est le luxe.
C'est le top là.
Alors moi quand j'étais jeune, j'avais fait les vendanges et on commençait très tôt parce qu'il faisait très chaud l'après-midi, ça c'est pas nouveau. Hein. Et donc, on commençait à 6h du matin, et sur le coup de 10h, il y avait le break, le petit repas. Et donc, on nous servait des grandes tranches de pain frottées d'ail, arrosées d'huile d'olive et frottées de tomates. J'en garde un super souvenir.
Les yeux brillent.
Voilà. Alors déjà, parce que c'était la pause, on en avait un peu plein le dos, puisque c'était des vignes qui étaient quand même basses. Et puis, bon, c'était le moment où on se posait, on regardait le paysage autour.
C'est vrai que là, il peut avoir un goût un peu comme le camembert. Il y a des camemberts qui sont très, très forts quand on le mange comme ça. Mais quand on l'a passé au four... Il perd de sa force. Et l'ail, c'est pareil. Quand l'ail, on ne pourrait pas le croquer comme ça. C'est fort. Et une fois qu'il est confit un peu dans une sauce avec un rôti, avec...
Alors, tout à l'heure, vous parliez de la salade. Moi, j'ai un truc, parce que c'est vrai que l'ail cru, j'ai un peu de mal. Quand je prépare la sauce de salade, en fait, je hache l'ail et je le laisse macérer un peu, soit dans l'huile, soit dans le vinaigre, soit si j'utilise de la sauce soja, dans la sauce soja. Et j'attends un peu avant de faire la sauce. Donc, ça va commencer un petit peu à se cuire dedans. Et après, je fais la sauce et donc on n'a pas ce problème de l'ail qui est très offensif. Ouais. Voilà. Alors, dans la même famille, on a d'autres zols, puisque c'est le pluriel. Alors, essayez, ça va être le moment où on vend les bulbes, l'ail décoratif. Alors, il y a une famille là qui est absolument méconnue et qui permet d'avoir des plates-bandes de rêve. Alors, pour 3 francs 6 sous, parce que les gens ne connaissent pas et donc ne l'achètent pas. Vous avez de l'ail qui peut avoir des têtes qui ont la taille d'une grosse balle de tennis. Vous avez de l'ail de toutes les couleurs. Vous avez un ail aussi qui s'appelle l'ail de Naples. C'est le seul qui est parfumé, enfin bien parfumé, qui est utilisé en fleuristerie, qui a des têtes blanches un petit peu pendantes. Et ça, on préconise par exemple de le mettre au pied des pêchers. à essayer. C'est quelque chose qui lutterait contre la cloque.
Il existe plusieurs variétés d'ail. On a l'ail, l'ail rose, l'ail...
Alors l'ail rose, il y en a un qui est cultivé depuis très longtemps, qui s'appelle l'ail de Lautrec. C'était la région d'Albi, Toulouse-Lautrec, il était de là-bas. Et c'est un ail qui est cultivé donc, depuis le Moyen-Âge et qui a l'avantage de supporter l'humidité, contrairement à d'autres qui seraient un petit peu plus fragiles. Là, il aime bien les sols argileux, soit argilo-siliceux, soit argilo-calcaire. Mais il faut quand même travailler le sol parce qu'il déteste avoir les pieds dans l'eau. Donc si vraiment vous avez un sol qui est très humide dans votre jardin, la solution va consister à faire des billons. Alors les billons, ce sont des plates-bandes un petit peu surélevées. Vous faites une petite montagne, une mini-montagne, voilà. Et vous plantez votre ail sur le sommet, de façon à ce que même si le sol est détrempé, il ne baigne pas dans l'eau. Alors c'est une des raisons aussi pour lesquelles il ne faut pas arroser l'ail à la plantation. Parce que justement, c'est une plante qui ne va pas aimer. C'est quelque chose que je préconise aussi quand on plante des aromates méditerranéennes, des aromatiques. C'est quand on plante, on n'arrose pas. Voilà, ça n'aime pas.
D'accord. La récolte, c'est vers quelle époque et c'est qu'une fois par an
la récolte se fait en été. Il y a deux façons de semer l'ail. Soit on va le faire en automne, soit on va le faire au printemps. Ça va un peu dépendre de la région où on se trouve. Si gèle à Pierre Fendre en hiver, c'est sûr que bon, il vaut mieux planter au printemps. Quand on ramasse l'ail, en fait, on va le laisser sécher sur place. Donc, on a intérêt à regarder la météo, qui est plusieurs jours où il n'y a pas d'humidité et où on va laisser l'ail coucher dans le jardin ou peut-être coucher dans des cageots et au soleil de façon à ce qu'il ressuie, c'est-à-dire qu'il perde son eau. Hein. Et puis après, on va avoir le bonheur de tresser. Ça, c'est quelque chose que je faisais quand j'avais un jardin. C'était assez sympa. Alors, dans la même famille, nous avons aussi des ols sauvages qui se consomment. Alors, l'ail des ours, qui est connu par chez nous. Alors, attention, l'ail des ours, il a une feuille au printemps qui s'apparente à la feuille du muguet des bois, sachant que le muguet des bois, c'est un poison violent quand même. Donc, voilà. Alors, une des façons de le reconnaître, c'est que la feuille de l'ail des ours est très luisante, contrairement à celle du muguet. Alors, je déplore un petit peu quand même les ramassages, parce que les gens, ils partent en bande et puis ils raclent tout. Ce qui fait que petit à petit, le site disparaît, parce qu'il faut aussi que les fleurs puissent faire des graines et puissent se ressemer. Voilà. Donc quand vous prélevez, laissez-en un peu, ou pour les autres, ou pour l'année suivante, ce serait quand même sympa. Donc avec l'ail des ours, on peut faire ce qu'on appelle le pesto, hein, mais on peut aussi l'utiliser dans des omelettes. On peut confire les bourgeons de fleurs au vinaigre. C'est très délicat, c'est beaucoup plus... subtil que l'ail dit domestique. Et alors moi j'ai découvert il y a 2 ou 3 ans dans un jardin qu'on m'avait demandé d'aider à nettoyer parce qu'il fallait un petit morceau d'herbe pour que les enfants puissent jouer. Et dans ce jardin donc j'ai trouvé une plante qui s'apparentait bien à un ail. Quand on coupait les tiges, ça sentait, ça avait une odeur caractéristique. Et après recherche, j'ai découvert que c'était un ail qui s'appelait l'ail triquêtre. Alors l'ail triquêtre, en fait, il a ce nom-là parce que les tiges de fleurs ont 3 côtés. C'est une des façons de le reconnaître.
D'accord.
Vous avez des tiges de fleurs qui sont quand même assez hautes, qui font 25 à 30 cm, avec une très jolie fleur pendante blanche en grappe. Et en fait, après recherche, j'ai trouvé sur Internet une recette sur FR3 Corse. Apparemment, là-bas, ça vient bien. Peut-être mieux que... Enfin, c'est plus courant que chez nous. L'ail des ours, là-bas, ça doit être un peu plus compliqué parce qu'il y a peut-être moins d'eau. Et donc, ils en servaient pour faire des omelettes. En fait, c'était quelque chose qui était assez connu. Et donc, par rapport à l'ail des ours, c'est un ail qui va avoir une feuille beaucoup plus étroite, mais que vous pouvez tout à fait inviter dans votre jardin, le mélanger avec les plates-bandes de fleurs, parce que les fleurs sont vraiment très jolies. Et là, vous aurez un réservoir de feuilles, vous pourrez épater vos amis. Vous savez, vous faites des petites tartines de fromage blanc, vous coupez de l'ail triquette dessus. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Et vous aurez votre petit succès.
Voilà pour ce qui concerne l'ail, ma chère Annick Valérie. Voilà, c'est quelque chose, je pense qu'on le retrouve beaucoup quand même dans la cuisine, hein, parce que ça donne du goût, ça oui. donne, franchement, c'est quelque chose de...
Et puis on va penser à Henri IV aussi, vous savez, vous connaissez la légende. Quand il est né, on a frotté sa bouche avec de l'ail et on lui a fait boire un petit peu de Jurançon.
Ah bon.
C'était quelque chose qui était fait aux nourrissons pour inciter la bonne santé à s'installer.
D'accord.
Voilà. Et il paraît, je n'y étais pas, qu'il croquait de l'ail très facilement et que donc il avait une haleine assez épouvantable.
Oui, mais je crois que c'était son hygiène aussi. qui aussi était voilà. un peu épouvantable d'après ce qu'on pouvait entendre. Merci beaucoup Annick Valéry pour cette anecdote historique. On se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir. Au revoir Philippe. Au revoir les auditeurs.
Et oui, il ne faut pas oublier, au revoir les auditeurs.